RTL Info. Le journal Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. L'inquiétude domine au lendemain du vote du Grand Conseil Neuchâtelois contre la convention collective de travail Santé 21. Les employés craignent pour leurs conditions de travail. Les pendules du Carillon d'Or à Auvergnat sont en lieu sûr à Cortaillot. La mobilisation des pompiers et des habitants a permis de sauver ces pièces d'horlogerie rares pour certaines de l'incendie qui a ravagé deux maisons au centre du village samedi. Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai ou encore Manu Chao, ce sont quelques-uns des noms qui feront la 42e édition du Palais au Festival de Nyon. Et Colombier-Volet n'évoluera pas en Ligue A la saison prochaine. Le comité du club renonce à cette promotion sportive. Le joueur phare de l'équipe, Joël Bruchweiler, annonce par ailleurs qu'il prend sa retraite. Le soleil devrait à nouveau régner en maître. Seuls quelques nuages s'inviteront dans le paysage demain. De choc après le débat d'hier au Grand Conseil neuchâtelois. Les députés ont décidé de biffer la référence à la convention collective de travail Santé 21 des textes de loi. Une décision qui alarme les employés du domaine de la santé. Infirmiers, assistants sociaux ou encore personnel d'entretien ont peur pour leurs conditions de travail. Les précisions de Marie Vieumier.
C'est diviser pour mieux régner, affirme Fabienne Kunzi, assistante sociale à l'hôpital neuchâtelois. Si la convention unique prend fin, les employés des diverses institutions ne pourront plus défendre ensemble leurs droits. Fabienne Kunzi constate qu'il n'y a pas assez de personnel actuellement dans les hôpitaux. Les collaborateurs sont épuisés. Ils risquent de ne plus tenir si les conditions de travail se péjorent et la qualité de prise en charge du patient va aussi en pâtir. Elle regrette que des décisions soient prises pour des raisons purement économiques et non pour le bien-être des malades. De son côté, Marianne Guillaume-Gentil a été scandalisée par le vote du Grand Conseil. Elle est infirmière et coprésidente de la commission du personnel de la HNE.
C'est un démantèlement. Moi, je pense aussi à tous mes collègues qui sont non-soignants, mais qui ont aussi besoin d'être couverts par cette CCT. Je rappelle que la CCT, c'est 5700 employés dans le canton.
Le fait de distinguer justement personnel soignant et non soignant, qu'ils aient des CCT qui soient différentes, ça vous pose problème? Pourquoi?
Ça me pose problème parce que cette CCT, elle a été négociée pour tout le personnel et puis elle sera inapplicable. Ça prendra tellement de temps de savoir qui est avec les soignants, qui n'est pas soignant. Une femme de ménage, par exemple, elle entre dans les chambres des malades. Pourquoi elle n'aurait pas droit à une CCT?
Après le vote du peuple neuchâtelois pour maintenir deux hôpitaux autonomes, cette remise en cause de la CCT Santé 21 ajoute encore une dose d'incertitude. Le personnel de la chaîne peine à se projeter dans l'avenir, à définir un plan de carrière. Mais la présidente de la commission fêtière de la CCT Santé 21 tient à rassurer. La convention n'est pas morte, martèle Christelle Hausner. Une nouvelle mouture est entrée en vigueur cette année et devrait rester valide jusqu'en 2020. De plus, la décision du Grand Conseil va être combattue par référendum. Le dernier mot devrait donc revenir au peuple. Et Christelle Hausner de rappeler qu'une convention collective est le fruit d'un accord entre les employeurs et les employés. Ces partenaires sociaux peuvent aussi opter pour des CCT communes et maintenir de bonnes conditions de travail.
Les jours de l'office postal de la Coudre sont bel et bien comptés. L'autorité de conciliation du marché postal a rejeté le recours du conseil communal de Neuchâtel. Le bureau de poste devrait fermer ses portes cette année encore. Il sera remplacé par une agence postale située dans le centre commercial des Portes Rouges. La Poste s'engage pour le maintien à long terme de cette agence et pour une ouverture 66 heures par semaine. Et puis les pendules du Carillon d'Or à Auvergnat sont saines et sauves. L'atelier qui se trouvait au rez-de-chaussée de l'une des deux maisons ravagées par les flammes samedi dernier a pu être totalement vidée. Plus de 150 pendules ainsi que plusieurs machines-outils étaient entreposées lorsque l'incendie s'est déclaré. C'est une chaîne humaine formée de pompiers et d'habitants du village qui a permis l'évacuation en lieu sûr de ces objets. De grande valeur, Thierry Amstutz, horloger et gérant de l'atelier au Carillon d'Or.
Vous avez des pendules du début du 18e siècle, puis après 19e, 20e siècle, des pendules qui étaient très compliquées ou très simples, et des pendules qui ont une valeur inestimable parce qu'elles sont uniques. Notamment, on avait aussi une pendule qu'on appelle mystérieuse qui a été créée par le magicien Robert Houdin de France. Et ça, c'est des exemplaires qui sont extrêmement rares.
Pour vous, la suite, vous avez déménagé à Courtaillot. Qu'est-ce qui vous attend ?
Alors là, on est dans des locaux qui n'ont jamais été utilisés à Courtaillot, qui sont superbes, qui vont être aménagés pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est très difficile parce que vous vous rendez compte, chaque vis, vous saviez où elle était, chaque pièce en fourniture aussi. Alors maintenant, il faut mettre tout ça en place. Mais encore une fois, le principal, c'est que toutes les pendules des clients n'ont vraiment pas souffert et vont reprendre vie ici à l'atelier et vont retourner chez leur propriétaire.
Faire dialoguer le passé et le présent, c'est l'objectif d'une double exposition temporaire accueillie par le musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds et consacrée à la communauté juive. C'est dans cet établissement que l'exposition itinérante « Juifs de Suisse, 150 ans d'égalité des droits » qui a fait le tour du pays l'an passé fera sa seule étape neuchâteloise. À cette occasion, le musée Chaux-de-Fonnier propose un regard sur l'histoire et l'apport de la communauté juive dans la métropole horlogère. Les explications de l'une des collaboratrices scientifiques du musée d'histoire, Myriam Minder.
On accueille l'exposition créée par la Fédération Suisse des Communautés Israélites qui a été créée l'année passée à l'occasion des 150 ans d'égalité des droits et qui présente 15 portraits de juifs de Suisse d'aujourd'hui qui expliquent en fait leur lien au judaïsme. Et puis donc on accueille cette exposition. On voulait la faire dialoguer avec un aspect beaucoup plus local, en l'occurrence ici à La Chaux-de-Fonds, parce que la communauté à La Chaux-de-Fonds a eu un impact économique et culturel très important dans l'histoire de la ville de La Chaux-de-Fonds. Donc on a vraiment deux expositions complémentaires qui dialoguent l'une avec l'autre.
Alors cette exposition est composée de textes, mais également d'objets. D'où proviennent ces objets ?
Les objets, on a quelques objets au musée d'histoire, mais la majorité des objets sont des prêts de différentes personnes, qu'ils soient des membres de cette communauté ou des gens qui en ont été proches et qui ont hérité de ces objets. Donc on a des objets qu'on montre pour la première fois au public ici.
Propos recueillis par Jean-Paul Pitchy, le vernissage de cette double exposition est prévu jeudi à 18h30 au musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds. Le public pourra la découvrir jusqu'au 13 août. Le Paléos offre les Red Hot Chili Peppers. Le groupe californien se produira à Nyon le 18 juillet. Arcade Fire, Jamiroquai, Renaud, Manu Chao ou encore Julien Doré complètent l'affiche de la 42e édition du festival. Au total, 93 artistes défileront sur scène entre le 18 et le 23 juillet. Daniel Rosla, le patron du festival.
Une édition pimentée, colorée, éclectique, qui va faire plaisir à toutes sortes de publics. Un public qu'on a l'habitude d'avoir à Paléo qui est ouvert, qui est curieux, qui est tolérant. Et je pense que ça sera un bon moment pour la fête avec pas mal de sonorités du village du monde aux accents de l'Amérique centrale. Et puis toutes sortes de styles de musique, du rock, hip-hop, festif, de la chanson, des découvertes, des musiques électroniques, de la musique classique, vraiment. Une édition avec une programmation très éclectique.
Des propos recueillis par Goufran Bron. Les Suisses n'auront sûrement pas à se prononcer sur la préférence indigène pour limiter l'immigration. Le référendum lancé contre la solution adoptée par le Parlement pour mettre en œuvre l'initiative de l'UDC est sur le point d'échouer. L'auteur du référendum indique qu'à moins d'un miracle, il ne sera pas possible de récolter les 50 000 signatures nécessaires d'ici le 7 avril. Le politologue tessinois Nenad Stojanovic reconnaît n'avoir pas su convaincre la population qui semble satisfaite de la solution adoptée par le Parlement, ce dont n'a jamais douté le conseiller national PDC Yannick Butet. Pour le Valaisan, il n'est pas nécessaire de revoter, encore moins d'annuler la décision du 9 février, comme le demande une autre initiative populaire, l'initiative Raza.
Ça va mettre les gens dans une situation difficile. Soit on revote ou alors on confirme une décision que le peuple a déjà prise et qui a déjà été traitée par le Parlement, soit on la remet en question avec des conséquences qui sont peu claires. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est de retirer cette initiative Raza si nous voulons amener plus de clarté dans notre politique européenne. Le peuple s'est déjà prononcé et s'il doit se prononcer à nouveau, à mon avis, ça doit être sur d'autres projets plus précis, notamment la question des bilatérales. Est-ce qu'il soutient toujours ces bilatérales avec l'Union européenne ou est-ce qu'il les remet en question ?
Et la question d'un contre-projet à l'initiative Raza reste ouverte. Le Conseil fédéral souhaite soumettre une alternative au Parlement d'ici fin avril, mais les variantes proposées ont été nettement rejetées lors de la consultation. La Cour d'appel de Bruxelles confirme la condamnation de la société Eternit. Elle a estimé que l'entreprise suisse savait depuis les années 70 que l'amiante était hautement cancérigène et qu'elle n'a pas pris les mesures de sécurité adéquates pour protéger ses employés et les riverains de l'usine. En revanche, les juges de Bruxelles ont sérieusement revu à la baisse les indemnités fixées par le tribunal de première instance. Les critiques des organisations de défense des droits de l'homme n'y auront rien changé. La loi hongroise qui permet de systématiquement placer en détention les migrants est entrée en vigueur aujourd'hui. Désormais, tous les demandeurs d'asile arrivés sur sol hongrois seront placés dans deux camps fermés installés à la frontière serbe. L'Union européenne a de son côté appelé la Hongrie à respecter les principes humanitaires.
Sport.
Colombier-Volley renonce définitivement à la Ligue nationale masculine. Le club du littoral avait terminé deuxième du tour de promotion au terme d'une brillante saison. Une place qui le propulsait automatiquement au sein de l'élite du volleyball suisse. Le comité de Colombier-Volley estime toutefois qu'il n'est pas raisonnable d'assumer cette promotion sportive. Pour nous en parler, nous sommes en direct avec le président du club, Patrick Bordoni. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous renoncez sur le tapis vert à cette promotion sportive, est-ce que cette décision a été prise à contre-cœur ?
Oui, tout à fait, en étant ancien sportif, compétiteur, ça fait toujours mal de refuser une promotion. Je crois qu'il y a la réalité de l'organisation d'un club, de sa structure, qui fait que c'est plus sage de renoncer, en tout cas actuellement.
Alors, une ascension en Liga aurait nécessité une augmentation conséquente de votre budget. Est-ce que c'est cet aspect financier qui a joué un rôle dans la décision ?
Pas uniquement, ça rentre en ligne de compte, c'est sûr. Mais il y a aussi les aspects de joueurs. Pour faire une équipe de Liga, il faut 10-12 joueurs qui ont le potentiel d'évoluer dans cette Ligue-là et qui sont prêts à s'investir aussi quasiment semi-professionnellement. Et actuellement, dans l'équipe qu'on a, c'était pas la majorité des joueurs qui étaient prêts à faire ce pas, ce que je peux comprendre. Hein. C'est tous des gens qui ont des professions à côté et c'est un gros investissement, peut-être plus gros que ce qui était demandé il y a 10-15 ans en arrière. Donc il aurait fallu aller chercher 6 ou 7 joueurs à l'extérieur avec une hiberne qui monte aussi du côté suisse-allemand. Ça allait être très ardu de pouvoir avoir un effectif conséquent et qui puisse tenir la route en Liga.
Et d'autant plus que votre joueur phare, hein, Joël Bruchweiler, a décidé de mettre un terme à sa carrière. J'imagine que ça a aussi pesé dans votre décision.
Oui, c'est sûr que ça pèse dans la décision. Un joueur comme ça, ça ne se remplace pas tout seul, mais on n'a pas encore abandonné. On va essayer de le faire changer d'avis pour essayer de donner encore une saison pour partir dans le projet du club qui est maintenant plus orienté formation. Et voir s'il est d'accord de continuer encore une saison. Donc je lance un appel, il ne le sait pas encore, mais que je vais le contacter pour voir si, dans quelle mesure on peut trouver un accord pour continuer une saison ensemble, cette collaboration qui a été très fructueuse.
Alors on espère qu'il vous écoute en ce moment, et vous venez de le dire, hein. Du coup ce renoncement de la promotion, ça veut dire effectivement que vous vous souhaitez miser maintenant sur la formation de la relève ?
Tout à fait. On a notre équipe de première ligue qui a fini troisième au championnat. Donc, c'est un magnifique résultat aussi. Il y a trois, quatre joueurs qui ont potentiellement le niveau d'aller évoluer en Ligue B. Et ça pourrait justement rajeunir ce cadre de la Ligue B et se préparer, pourquoi pas, à une ascension en Liga à l'horizon de deux ou trois ans. Ça sera plus difficile parce qu'il n'y aura pas de place automatique. Mais dans le volet masculin, il y a toujours eu des opportunités de monter. Les contraintes sont assez lourdes, donc si on s'organise bien, on se prépare bien, mais c'est effectivement, on peut pas décider comme ça de monter en Liga sur 3-4 mois. Ça, c'est quelque chose qui doit se préparer sur du moyen terme, sur 2-3 ans.
Une dernière question, que va devenir l'entraîneur Louis Souza ? Est-ce que son contrat sera reconduit ?
Alors Louis, c'est encore un bel objectif à réaliser d'ici la fin de la saison, c'est le championnat suisse M19. Je rappelle que c'est l'équipe M17 qui est sortie vice-championne suisse l'année passée. Là, il y a les qualifications pour participer au Final Four qui se déroulera à Neuchâtel. Mais le dernier tournoi qualificatif a lieu ce dimanche, à Berne, pour ceux qui sont intéressés à aller voir. Une magnifique équipe de jeunes. Donc, On va laisser passer ce championnat-là et puis ensuite on va se retrouver, discuter ensemble et voir quelles sont les attentes de chacun entre l'entraîneur, le club et voir si possibilité d'accorder nos violons pour la suite ou pas. Donc je réserve cette annonce plus tard au courant du mois d'avril.
Alors nous, on ne manquera pas de vous rappeler à ce moment-là. En tout cas, merci Patrick Bordoni d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de Colombier Volley.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Et en tennis, place au 8e de finale pour Roger Federer et Stan Wawrinka. Ce soir au Masters 1000 de Miami, le Balois va se frotter à l'Espagnol Roberto Bautista dès 19h. Stan Wawrinka défie quant à lui l'Allemand Alexander Zverev. La rencontre commence vers 23h.
Et voici les résultats du Quintet Plus qui s'est disputé cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans le prix du Languedoc qui réunissait 18 partants. Voici l'arrivée définitive. Le 15, le 10, le 2, le 3 et le 5. Quelques nouvelles du ciel ?
La météo avec Anser, la station valaisanne à seulement 2 heures de Neuchâtel.
Des conditions plutôt ensoleillées pour cette fin de journée. Quelques cumulus seulement présents le long des reliefs. Quelques gouttes encore possibles, mais pas forcément obligatoires. Demain, eh bien, c'est un schéma plus ou moins similaire qui nous attend, avec un temps globalement ensoleillé et quelques cumulus qui se formeront l'après-midi le long des reliefs, mais cette fois-ci ne donnant pas d'averse. Côté température, il fera frais en matinée, 1 à 6 degrés, mais nettement plus doux en journée, 18 degrés autour du lac, 17 dans le Val de Travers, 15 degrés attendus dans les montagnes neuchâteloises et le Val de Rue. Pour la suite, de belles conditions, jeudi encore, vendredi. Le temps sera ensoleillé jusqu'en milieu d'après-midi, mais des nuages vont ensuite s'installer. Les températures resteront tout de même extrêmement douces, plus de 20 degrés attendus en pleine, 17 à 1000 mètres d'altitude. Par contre, pour ce week-end, eh bien, ça va se gâter.
La météo avec Anser, son domaine skiable et son spa et wellness. Anser.ch.